Voilà, merci. Voilà, voilà enfin la famille. Enfin la famille va. La famille est toujours dans ces histoires-là, à la fois la première intéressée, parce que je rappelle tout de même que la plupart des personnes qui souffrent de ces maladies dans la ville, avant l'hôpital, c'est la famille qui s'en occupe, et après l'hôpital, c'est encore la famille qui va s'en occuper. Alors c'est un peu paradoxal que ce support majeur de ces personnes soit toujours un petit peu, je dirais, un invité souhaité, on dira, mais toujours un peu curieux, quoi. Alors, je voudrais rappeler, il faut dire quand même un mot de cette souffrance des familles qui deviennent elles-mêmes malades, bien souvent, de la situation à vie, souvent, ou tout au moins très longtemps, dans laquelle elles sont plongées. Je parle en tous les cas pour la partie des personnes souffrant de ces maladies qui sont les personnes souffrant des maladies les plus graves. Je parle des gens qui souffrent des psychoses, je n'ai pas d'expérience sur les nombreuses autres personnes aussi dont s'occupe la psychiatrie et dont nous ne connaissons pas la vie. En tout cas, en ce qui nous concerne, je voudrais dire d'abord que dans cette loi, il y a un élément qui nous a quand même soulagés. J'ai entendu ce soir, je ne sais plus, de quelques intervenants dire la famille qui hospitalise. Non, non, justement. Cette loi a introduit maintenant une différence. La famille, elle est une demandeuse de soins. Mais elle laisse aux fameuses périodes de 72 heures, qui, je le rappelle, étaient déjà dans le rapport de Stroll en 1997, elle laisse à cette période le soin au médecin de décider de la forme du soin. Et c'est vrai que, auparavant, nous étions très mal à l'aise de nous dire, nous demandons une hospitalisation alors que nous ne sommes pas médecins et qu'après tout, nous ne pouvons pas savoir s'il fallait faire une hospitalisation. Donc, en attendant, la famille est demandeuse de soins et la responsabilité de l'hospitalisation, ce n'est pas la famille qui le prend. Et ça, c'est une chose pour nous importante. Alors, on a parlé du transport, j'ai entendu transport, mais ce n'était pas le transport qui nous intéresse. Je ne dis rien sur, effectivement, et c'est très condamnable, les conditions plus ou moins bétaillères dans lesquelles les malades sont transportés, mais surtout, et là on a parlé de dignité de la personne humaine, surtout le transport à l'hôpital, le transport la première fois, quand la personne est dans votre domicile, qu'elle s'accroche au radiateur, qu'elle ne veut rien entendre, qu'elle est en parfaite crise, parfait délire, et qu'auparavant, qu'est-ce que faisait la famille, hein? On téléphonait aux pompiers. Les pompiers, ils nous disaient, mais il n'y a pas le feu. On téléphonait à la police. La police, elle ne disait rien. Et puis, bien souvent, ça se terminait dans, je dirais, la situation la plus abominable et la plus éloignée de la dignité humaine. C'est-à-dire que quand la personne, à force de se barricader, était devenue absolument incontrôlable et que l'intervention finissait par se faire souvent à la demande des voisins, par exemple, manu militari, alors là, dans des conditions, ce n'était pas le pyjama, hein. C'était bien pire. Nous avons toujours dit à une femme que le soin débute dès le transport. Ce n'est pas tout à fait ce que nous avons obtenu dans la loi. On a quand même obtenu des conditions, peut-être même sans doute, plus raisonnables, mais ce n'est pas écrit. Ça veut dire que, quand vous parliez qu'on ne fait pas n'importe quel geste lorsque on emmène une personne, nous, ce que nous souhaiterions, c'est que le transport soit piloté par les médecins, parce que le transport fait partie du soin, et que les qualités ou les défauts ou les traumatismes que ce transport va engendrer va provoquer ensuite chez le médecin qui reçoit le malade une grave difficulté pour le soigner. Donc je pense qu'il ne faut pas laisser à la police le soin d'inventer n'importe quel geste. Il faut que la chose, même si la police doit quelquefois malheureusement intervenir, il faut qu'elle soit sous la responsabilité du médecin. Donc nous disons le transport, le soin commence dès le transport. Alors bon, ça c'était la demande de soins. Après, il y a évidemment l'histoire du juge. Bon, c'est vrai de dire que ce n'est pas l'UNAFAM qui a été la plus chaude pour demander l'intervention du juge. Mais nous avons été convaincus. Nous avons été convaincus. Bien sûr, les familles étaient ballottées entre le droit à la liberté et le droit à être soigné. Et le droit à être soigné, ça signifiait quelque chose pour eux, hein, quand vous êtes dans ces situations-là. Vous pensez plus aux soins qu'à la liberté. Mais c'est vrai que, c'est vrai tout à fait qu'il y a une, il y a, disons, une balance à faire entre ces deux sortes de droits, et je pense que il faut réfléchir au, à un droit, je dirais, des personnes que quelqu'un a appelé demi-capables. Nous aimons beaucoup cette expression, c'est Benoît Hérault, un sociologue qui vient de passer sa thèse sur le problème de l'accompagnement, enfin de la protection juridique, exactement. Et donc, il appelle ces personnes les personnes à demi-capables. Nous aimons bien cette chose parce que ça reflète un peu la réalité de ces personnes qui tantôt ne sont pas capables, mais tantôt le sont. Je pense que les problèmes sont communs. Il n'y a pas que la psychiatrie. Les problèmes sont communs, bien sûr, à la loi de 2007 sur les tutelles et les curatelles. C'était également une privation de liberté. Et puis, bien sûr, le fameux code pénal, hein, que beaucoup connaissent mieux que moi, qui fait un distinguo entre faculté abolie ou faculté altérée. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de problèmes dans la société qui relèvent d'un droit un peu à côté, me semble-t-il, du droit de la personne capable juridiquement, hein, tout homme né et demeure libre et égaux en droit. Bon, alors quand elle est demi-capable, il faut savoir ce que ça devient, et on est dans ce problème-là. Alors, je disais que les familles étaient convaincues quand même, nous le pensons maintenant, de l'utilité du juge. Je voudrais juste vous dire la dernière phrase que Benoît Hérault a écrite dans sa thèse et que je trouve particulièrement éclairante. La personne humaine ne se réduit pas à ses actes. Nos malades ne se réduisent pas aux actes de délire, d'hallucination, etc., qui provoquent toute cette histoire. Mais, donc la personne humaine se caractérise par un vécu dans lequel elle devient elle-même. Et ça vaut même pour les gens normaux, hein, ce n'est pas forcément des malades dont je parle. Et c'est vrai que je pense que la démarche judiciaire, la procédure, le juge peut faire partie de ce sentier vécu par lequel la personne peut effectivement devenir elle-même. Bon, avec tous les bémols de ce non-consentement, mais qui n'est pas permanent. Encore une fois, c'est demi-capable. Ça veut dire que de temps en temps, elle est capable. Et peut-être qu'une fois la crise passée, elle peut peut-être se réapproprier la démarche, et elle se réapproprie la démarche d'autant plus facilement qu'elle aura pu avoir accès, effectivement, au juge. Alors, ceci dit, les personnes très malades, de toute façon, elles vous disent « Non, je veux pas ». Donc la question ne se pose même pas, hein. Là on a parlé de tous les cas des malades qui voulaient effectivement ou qui. Alors je ne parle pas des hôpitaux qui déclarent que la personne est intransportable ou je ne sais pas quoi, mais il y a des malades, par exemple dans les hôpitaux de Lille où cette obligation, enfin cette chose n'existe pas, mais il y a des gens qui disent simplement non, je veux pas parce que c'est incorporé dans leur délire, etc. Je ne sais pas pourquoi, allez savoir. Mais finalement, je dirais que les personnes les plus malades, de toute façon, elles rentrent pas dans le système. C'est dommage, évidemment. Bon, alors celles qui peuvent rentrer dans le système, c'est peut-être les personnes qui sont pour la première fois malades. Et là, si elles peuvent rentrer dans le système, c'est une bonne chose. Et dans ce cas-là, nous sommes bien d'accord. Il vaudrait mieux que le juge se déplace, parce qu'il est établi aujourd'hui que les malades participent d'autant plus à la procédure que le juge se déplace. Et c'est vrai que s'il faut les emmener au tribunal, tout ça, ça va empêcher certains malades de profiter de ce droit. Donc c'est clair qu'il faut, aller vers le déplacement du juge, c'est bien certain. Bon, cette histoire de juge aussi, je voudrais simplement attirer l'attention sur les mots. C'est vrai qu'il vaudrait mieux que ça s'appelle juge des libertés et qu'on enlève le mot détention. Il faut peut-être réfléchir à, effectivement, un juge spécialisé dans ce domaine. Je crois savoir qu'à Lyon, le tribunal a spécialisé un juge pour ces affaires-là. Il porte évidemment toujours le nom RIP. C'est vrai que le mot détention, ça. Claude parlait du mot internement. Je continue à lui dire que l'UNAFAM n'aime pas ce mot-là. Tu m'excuseras, Claude. parce qu'effectivement, il rappelle trop la détention, et je dirais que, évidemment, c'est un mot qui peut se justifier quand l'hospitalisation ressemble trop à un internement, mais c'est un mot que les familles n'acceptent pas du tout, parce qu'elles, elles pensent aux soins, elles aiment mieux dire que la personne est hospitalisée, parce qu'elle a fait aucun mal, etc. Et donc le mot internement n'est pas un mot dont la pratique nous semble très profitable. De la même façon, bon, les mots sont des choses très importantes pour ces personnes qui souffrent de ces maladies parce qu'elles sont fragiles, leur délire, je dirais, s'imprègne facilement de tous ces mots plus ou moins coercitifs et peuvent alimenter ce délire, ce qui conduit plus ou moins à une maltraitance. Encore une fois, les mots sont des choses dangereuses pour eux. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire quand même les critiques que nous avons sur cette loi qui rejoignent celles qui ont été faites, mais les plus graves, je veux dire, c'est d'abord cette présence de l'ordre public dans les attendus, si vous voulez, de la définition de quand est-ce qu'on peut soigner sans consentement. Je pense que dans certaines législations, en Belgique par exemple, le mot ordre public a été supprimé. Je vois pas très très bien, moi je comprends pas très bien ce mot-là dans une affaire qui est sanitaire. On a parlé, bon, évidemment, quand on veut protéger la société, etc. Mais enfin, je veux dire, prononcer les soins sans consentement s'il n'y a que l'ordre public, c'est un peu élastique et dangereux. L'autre problème, plus précis, c'est effectivement le traitement qu'on inflige à ces malades qui n'en peuvent rien, et qui ont été dans une unité de malades difficile, à tel point que certaines personnes croient que UMD, ça veut dire unité de malades délinquants. C'est cette confusion abominable que cette discrimination, je dirais, entretient. Et là, je crois que vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas bon du tout dans cette loi, de la même façon que mettre 10 ans à effacer la mémoire d'une irresponsabilité pénale, c'est tout à fait critiquable également. Voilà, si vous voulez, les traits essentiels, la manière dont les familles de l'UNAFAM reçoivent cette loi. Merci beaucoup.
Merci.